Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand a invité Serge Legas cet après-midi. Il pourrait bien être question de peinture dans Au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. On ne peut décidément rien vous cacher. Et cependant, nous n'allons pas vous parler avec Serge d'un peintre. Nous allons vous parler du peintre, du maître des maîtres, de Léonard de Vinci.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Mopelia et Franck, qui souhaitent connaître l'origine de deux expressions qui ont un point commun à leur rapport aux animaux.
Moi, je vous trouve bien mystérieuse, là, Céline. Pour le moment, on est très près, vous avez remarqué, on est dans le nouveau studio Lagardère.
Oui,
on est vraiment les uns sur les autres. C'est très intime en même temps. Je vous propose là d'aller faire mieux connaissance avec un drôle d'animal, disons-le, un humain qui rêvait de voler avec des ailes de chauve-souris. Nous voici Léonard de Vinci.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je suis désolé de vous le dire, mais l'image que vous vous faites de Léonard de Vinci est très probablement fausse. Elle est fausse au physique et elle est fausse au moral. Au physique d'abord, vous savez, on a toujours l'image de cette espèce de Léonard barbu, avec même une immense barbe un peu à la Merlin l'Enchanteur, hein, comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a cette image? Bien parce que on possède le célèbre autoportrait de la bibliothèque de Turin. C'est un autoportrait qui date de 1512. Si c'est bien Léonard qui est représenté là, alors il avait 60 ans, alors qu'en fait, une indication nous dit que le personnage a 67 ans au passage. Et puis surtout, cette sanguine, aussi somptueuse soit-elle, n'est absolument pas titrée. On ne sait pas qui se trouve sur ce portrait. Et rien ne permet d'affirmer qu'il s'agisse d'un autoportrait de Léonard de Vinci, qui est mort, entre parenthèses, en 1519. Donc si c'est un autoportrait, dites-vous que c'est un autoportrait extrêmement tardif, et qu'en vérité, le personnage dont nous parlons et dont nous allons parler pendant cette heure était beaucoup plus jeune, évidemment, beaucoup plus alerte et sans doute un peu moins barbu que le personnage de Turin. On a deux moyens de se faire peut-être une idée de ce à quoi pouvait ressembler Léonard. Il a été peint, semble-t-il, par Botticini dans Tobie et les Trois Archanges. Il serait l'un des archanges. Et puis, surtout, on sait que Verrocchio, ça c'est un témoignage de Vasari, mais enfin c'est mieux que rien, Verrocchio aurait pris Léonard comme modèle pour son célèbre David. Si c'est le cas, alors on voit un peu quel genre de personnage était Léonard, assez athlète, mais en même temps assez fin de visage, notamment les cheveux bouclés. On sait par ailleurs qu'il avait les cheveux blonds du reste et qu'il était toujours extrêmement raffiné, toujours dans des tenues chamarrées, brodées, superbes, très richement habillées. Bon, ça, c'est pour le portrait physique. Mais au moral, on n'en sait pas davantage. Et surtout, on nous présente un Léonard bien souvent très éloigné de ce qu'il fut réellement. On nous le présente un peu comme une sorte de chef d'atelier, hein, comme le chef de toute une bande. En fait, c'était un homme qui était solitaire par essence, un véritable ours, jaloux de son indépendance. Il est assimilé à l'humanisme de la Renaissance. Alors, et ça, vous allez voir que c'est une de mes marottes et on aura l'occasion d'y revenir dans le courant de l'émission. Léonard est tout sauf cela. Il est au contraire un aristotélicien. C'est un homme de l'expérience et c'est un homme essentiellement du Moyen-Âge. Un Moyen-Âge finissant sans doute, mais tout de même. On nous le présente comme le génie universel qui aurait tout inventé. Je parlais de l'aviation et pourquoi pas l'hélicoptère et pourquoi pas le vérin hydraulique, enfin bon, etc. On lui prête toutes sortes d'inventions dont en fait les spécialistes ont pu démontrer qu'il n'avait quasiment rien inventé. C'est un compilateur de génie et certains, plus mal intentionnés, diraient que c'était un plagiaire. Enfin, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui puisque nous allons parler du peintre essentiellement, on nous le présente comme le virtuose des virtuoses alors que lui-même disait tout le contraire. Léonard avait besoin de temps pour peindre, il utilisait beaucoup l'huile parce que justement ça permettait les retouches, ça permettait les modifications permanentes. Ses œuvres étaient en perpétuel devenir et l'on est très loin de l'incroyable virtuosité d'un Michel-Ange, par exemple. exemple pour ne parler que de son principal rival. Vous savez, pour ce qui est de la peinture, faites une petite expérience autour de vous et demandez aux gens quelle est l'œuvre la plus emblématique ou les œuvres les plus emblématiques de Léonard de Vinci. On va systématiquement vous citer les grands tableaux du Louvre, la Joconde, bon ça évidemment, mais au-delà de la Joconde, on va vous parler du Saint-Jean-Baptiste, on va vous parler de la Vierge au Rocher, etc., en oubliant des œuvres peut-être beaucoup plus essentielles pour la construction du personnage et pour le legs qu'il nous a fait. Et ces œuvres plus essentielles, c'est par exemple l'Adoration des Mages, une œuvre d'une complexité folle, aux effets multiples, une sorte d'esquisse dans l'esquisse avec des perspectives très subtiles, une œuvre inachevée surtout. Et l'autre grande œuvre inachevée, celle qu'on est en train de redécouvrir par les miracles de l'archéologie, mais qui n'a laissé, somme toute, quasiment aucun vestige, sinon à travers des gravures et des copies qui ont pu en être faites, c'est la célèbre bataille d'Anghiari. Ça, c'est le morceau de maîtrise. C'était la grande confrontation avec Michel-Ange, justement. Et cette bataille d'Anghiari est infiniment plus complexe, là encore, que les œuvres que l'on cite toujours. Alors, un mot peut-être de la biographie de Léonard. Il faut vous dire que il est un petit bâtard. À l'époque, ça n'avait pas la connotation péjorative qu'on peut trouver aujourd'hui. Il y avait énormément, vous savez, si on devait de Francesco Forza à Fernante de Naples, à Erasme, etc. La Renaissance est pleine de ces enfants naturels. En l'occurrence, il est l'enfant naturel d'un notaire, ça sert Piero da Vinci, et d'une vachère, il faut bien le dire, d'une petite paysanne qui va jouer un rôle, cette Caterina. Il restera fidèle à l'image de cette mère qui pourtant ne l'a pas élevée, puisque très tôt, il va être confié à la famille de son père. Et ce qui est intéressant, c'est que tout bâtard qu'il est, et quel que soit le caractère un peu, comment dirais-je, un peu flottant de sa situation, il va connaître l'amour, il est entouré de l'amour de sa belle-mère Albiera, de son oncle Francesco qui a 22 ans, qui va lui faire découvrir des horizons incroyables, c'est lui qui va lui donner le goût de l'aventure, et puis surtout de ce grand-père extraordinaire, ce grand-père qui va prendre le tout petit garçon par la main et va l'emmener dans la nature pour l'amener à découvrir le monde, à s'imprégner de l'univers, à s'émerveiller de l'extrême diversité des formes telles qu'elles figurent dans la faune et dans la flore. Ce grand-père est celui qui lui ouvre l'œil, et vous savez, en patois florentin, ouvre l'œil, ça se dit polocchio. Eh bien, le grand-père lui dit constamment: ouvre l'œil, mon petit Polocchio, regarde, arrête de voir et commence à regarder, commence à appréhender chaque chose comme si tu la découvrais pour la première fois.
Sur Europe 1, composé par Karl Orff. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous laisser vos messages et vos questions par mail sur europe1.fr, via la page Facebook de l'émission ou encore sur Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur Léonard de Vinci.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Léonard de Vinci.
Vasari, vous savez, c'est ce biographe de tous les grands artistes de la Renaissance dont il faut prendre les relations avec des pincettes, néanmoins, parce qu'évidemment, il a tendance à romancer, et lorsqu'il ne sait pas, il arrange, il invente. Mais néanmoins, Vasari, qui ne comprenait pas tout à Léonard, il faut bien le dire, Léonard est sans doute même le personnage parmi ceux dont il nous fait découvrir l'existence qu'il connaissait le moins bien. Et il nous dit qu'à la fin de sa vie, pour s'amuser, le vieux Léonard s'inventait de drôles de jeux et notamment il avait harnaché un lézard avec toutes sortes d'artifices. Il lui avait collé des plumes d'oiseaux pour faire des ailes, des plumes multicolores, nous dit-il. Il lui avait mis des griffes en métal précieux. Bref, il avait transformé ce malheureux lézard en une sorte de monstre qui, semble-t-il, effrayait les visiteurs de Léonard et le faisait lui beaucoup rire. C'est très intéressant cette anecdote parce que, et ça Vasari ne l'a pas compris du tout, mais ce qui a toujours fasciné Léonard, ce sont les traits saillants. C'est ce qui naît dans le monde, dans le domaine de la forme, ce qui n'est pas habituel, ce qui tranche sur les choses lisses ou habituelles, voyez. Et il y avait chez lui une fascination pour la forme extraordinaire. Et son lézard est une forme singulière avant tout, dans une renaissance éprise d'harmonie et de formes de plus en plus classiques, dans une renaissance qui ne lorgne que du côté de l'antique, lui à conserver le goût singulier des formes extravagantes du Moyen-Âge. Ça, c'est un des aspects de Léonard, et on le retrouvera bien entendu dans sa peinture. Il y a une autre anecdote, cette fois de sa jeunesse, qui est très parlante à ce propos, c'est la fameuse anecdote de la rondache. Son père lui avait proposé de décorer, vous savez, on mettait au-dessus des maisons, dans cette région de la campagne florentine, on mettait au-dessus des portes d'entrée des boucliers ronds, qui était censé résumer en quelque sorte l'esprit de la maison, de la famille si vous voulez. Et ces boucliers étaient toujours décorés. Donc en l'occurrence, le père de Léonard, qui avait tout à fait Serpiero, qui avait remarqué chez son fils un talent particulier, lui dit bah, « Écoute, tu vas décorer la rondache familiale. Voilà ce grand disque de bois, tu vas nous le décorer. » Et Léonard va le décorer en essayant de représenter l'animal le plus effroyable possible. Son idée, c'est tout le mythe de la gorgone méduse. On doit être, en regardant la rondache, on doit être sidéré d'effroi. Eh bien, pour réaliser son œuvre, il réunit dans une petite boîte, nous dit toujours Vasari, toutes sortes d'animaux. Alors il prend un lézard, une araignée, une libellule, enfin toutes sortes de bêtes qu'il installe là-dedans. Et il va copier, il avait même pris une tête de chauve-souris. Enfin, il va copier de près chacun des animaux, il va mélanger tout ça pour en faire la créature la plus hideuse, la plus repoussante, la plus effroyable possible. En oubliant d'ailleurs les animaux dans la boîte qui, paraît-il, dégageaient une odeur pestilentielle. Toujours ce goût du bizarre. En découvrant la rondache, son père est tellement surpris, il est tellement ébloui même d'un talent qui, chez son fils, transparaît d'une manière très spectaculaire, qu'il va le conduire jusqu'à l'atelier de Verrocchio, la bottega, comme on dit. Et c'est ainsi que Léonard va faire ses débuts chez un maître artiste, alors qu'il est un artiste dans tous les domaines. Hein. C'est un polytechnicien au sens propre. Il est à la fois sculpteur, fondeur, évidemment graveur et dessinateur et peintre, etc. Verrocchio, c'est l'artiste complet qui, d'ailleurs, dans son atelier, en même temps que Léonard, se permet d'avoir Botticelli, le Pérugin et Domenico Bigordi, qu'on appelle il Ghirlandaio. Vous voyez un peu l'extraordinaire floraison d'artistes qui sont sortis de la bottega de Verrocchio. Mais ce que Léonard a et que les autres n'ont pas, sa supériorité sur ses camarades, d'une certaine manière, c'est cette capacité d'observer qu'il a hérité de son grand-père et des promenades d'enfance dans la belle campagne de Florence. Il a ce don extraordinaire de faire ressortir le détail que d'autres n'auraient pas su percevoir. Alors, bien entendu, ce don va se peaufiner, Léonard va faire toutes ses études chez Verrocchio et à la sortie, il entre dans ce qui est à l'époque évidemment le paradis des artistes, c'est l'Académie des Médicis à Florence, un endroit où une académie pleine de sculptures antiques, pleine de grands modèles antiques, qu'il va copier probablement, pour autant qu'on le sache. Et ce qui est très étonnant, c'est que n'importe qui serait très heureux dans cette académie. Regardez comme s'y épanouira Michel-Ange. Pas Léonard. Léonard est un homme, encore une fois, de l'expérience, de l'invention, du bricolage, si j'ose cette expression. Il y a un côté géotrouve-tout chez ce bonhomme qui ne se satisfait pas du tout de l'académisme, du platonisme, de l'idéal de la maison de Médicis. Et Léonard n'aura de cesse que de quitter Florence pour aller vers la ville des techniques, pour aller vers la ville de l'expérience qui à l'époque se trouve être Milan chez les Sforza. Et alors, il faut voir la lettre que Léonard adresse à Ludovic Sforza pour le convaincre de l'employer. Hein. Il dit « Illustrissime Seigneur, voici à vos pieds, etc. » Il se présente, c'est une lettre de candidature si vous voulez. Et alors il dit 1. J'ai le moyen de construire des ponts légers, solides, robustes et d'un transport facile pour poursuivre et au besoin mettre en déroute l'ennemi. 2. Pour l'investissement d'une place forte, je sais comment chasser l'eau des fossés et construire une infinité de ponts béliers et chales d'escalade. 3. J'ai le moyen de détruire toute citadelle ou autre place forte dont les fondations ne reposeraient pas sur le rechaud, etc. Mais on se dit, mais où est le peintre là? Où est l'artiste? Eh bien, c'est que Léonard, de son propre aveu et dans la conception qu'il se fait de ses propres dons, ne se vit pas comme un artiste et encore moins comme un peintre. Et d'ailleurs, c'est sans doute la raison pour laquelle il peindra si peu, une vingtaine d'œuvres en tout que nous allons détailler tout à l'heure avec Serge Lega. En vérité, Léonard se conçoit comme un ingénieur, comme un homme de l'art et même, pour être encore plus précis, comme un ingénieur militaire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'homme d'art, à l'ingénieur militaire, comme se définissait Léonard de Vinci.
Un Léonard de Vinci qui a partie liée avec les oiseaux. Vous savez que l'oiseau est toujours présent dans un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Freud a beaucoup parlé du fameux Milan qui était, semble-t-il, venu se poser sur le berceau de l'enfant et qu'on retrouve en figure inversée, quasiment en filigrane, dans le célèbre portrait de Sainte-Anne et l'enfant. Il nous a parlé de ces oiseaux qui, chez Léonard, sont le symbole, en quelque sorte, de la vie elle-même. On sait qu'il achetait des oiseaux aux oiseleurs sur les marchés pour le simple plaisir d'ouvrir la cage et de les laisser s'envoler. Et on sait également qu'il réalisait des mobiles dans une structure très légère et qu'il suspendait au plafond et qu'on regardait en quelque sorte voler comme en sustentation au-dessus de l'atelier de Léonard. Quelle plus belle image, quelle plus belle allégorie de l'inspiration, car Léonard, et j'espère que vous l'aurez compris, est un être inspiré. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'avait pas un grand talent pour la peinture. Évidemment, j'ai dû vous faire sursauter en parlant du plus grand maître de tous les temps. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a chez lui la recherche d'une forme qui se définit toute seule, qui va naître par elle-même d'une certaine manière. Il y a une chose assez extraordinaire, c'est encore Vasari qui n'a pas tout compris et qui nous dit que Léonard s'amusait à gratter des panses de brebis et qu'il soufflait dans les panses ensuite avec un soufflet. Vous savez que c'est infiniment extensible cette matière. Hein. Et donc ça créait des espèces de grosses baudruches qui peu à peu, nous dit Vasari, prenaient tout l'espace de la pièce et obligeaient les visiteurs de Léonard à longer les murs. Ils ne pouvaient même plus respirer tellement la baudruche avait occupé d'espace. Et bien ça, c'est peut-être le secret ultime de ce maître. Car il y a là ce qu'on pourrait appeler l'obsession de la croissance. Chez Léonard, tout est en mouvement, tout est en croissance, tout est dans la transformation, un peu à la manière de l'embryon qui peu à peu se développerait pour devenir créature. L'œuvre de Léonard, sa peinture vient de là. Il y a un texte qui est tout à fait extraordinaire qu'on trouve dans un des codex. Vous voyez, les codex, ce sont toutes ces feuilles. Il écrivait à l'envers. Hein. Il écrivait ce qu'on appelle une écriture scapulaire, c'est-à-dire qu'il écrivait de droite à gauche. Il faut un miroir pour lire ce qu'il écrivait. Parfois d'ailleurs de bas en haut, enfin il était un peu bizarre quand même, il faut bien le reconnaître. Et toutes ces feuilles qui traînaient partout ont été reliées dans différents albums qu'on appelle des codex. Et bien dans un des codex, voilà ce que l'on trouve. Façon de stimuler et d'éveiller l'intellect pour des inventions diverses. C'est de la main même, c'est sous la plume de Léonard, je le cite. « Si tu regardes des murs barbouillés de taches ou faits de pierres différentes et qu'il te faille imaginer quelques scènes. Tu y verras des paysages variés, des montagnes, des fleuves, des rochers, des arbres, plaines, grandes vallées et divers groupes de collines. Tu y découvriras aussi d'étranges airs de visage et des costumes exotiques et une infinité de choses que tu pourras ramener à des formes distinctes et bien conçues. » Eh bien, voilà le secret de Léonard. Partir de l'informe pour y trouver la forme et faire évoluer cette forme pour l'amener à ce que lui ressent. Ça, c'est sa façon de peindre. C'est quand je vous parlais tout à l'heure de l'huile, vous comprenez, on part d'une tache de peinture en quelque sorte, et puis d'une autre tache, et puis peu à peu tout ça prend forme sous les yeux du maître et on voit se développer, je parlais d'embryon hein, tout à l'heure, mais on voit se développer cette espèce de créature vivante qu'est le tableau de Léonard de Vinci. Et pourquoi ces 20 tableaux aujourd'hui fascinent-ils encore à ce point la planète entière? Peut-être parce que justement Léonard les a rendus vivants. Ce sont peut-être les seuls tableaux que nous connaissons qui ont eu une genèse en quelque sorte, qui sont nés d'un noyau et qui sont venus jusqu'à nous. Et peut-être que si Léonard avait vécu encore plus vieux, il a déjà vécu vieux pour son époque, mais s'il avait vécu davantage, peut-être les tableaux se seraient-ils encore et toujours transformés. C'était du work in progress, c'était des tableaux en devenir, en permanence. Certains de ces tableaux commencés 20 ans plus tôt n'étaient pas, disait-il, terminés quand la mort est venue le saisir. Léonard était curieux des formes, il était observateur de la vie et il nous invite à faire un peu comme lui, c'est-à-dire à se placer devant un mur, devant n'importe quelle forme, pourquoi pas les frondaisons ou les nuages. Vous savez, on peut faire ça avec les nuages, c'est tout à fait passionnant de chercher des visages dans les nuages. C'est une belle occupation entre nous, soit dit. Faire surgir l'inconscient, pour ne pas dire même le conscient de l'informe et du chaos. Bonjour Serge Lega.
Bonjour Franck.
Alors j'ai parlé généralement de Léonard, nous allons maintenant venir au détail, nous allons prendre l'une après l'autre chacune des grandes œuvres du maître.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est Léonard de Vinci qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Serge Lega, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts.
Serge Lega, nous avons 14 tableaux à évoquer en 28 minutes, ça fait 2 minutes par tableau, top chrono. Alors, les premières interventions picturales de Léonard, ce sont sur des œuvres d'atelier et de l'atelier de Verrocchio, bien entendu.
Oui, dont le très très célèbre tableau du musée des Offices, qui est évidemment le baptême du Christ, où l'on est certain que Léonard est intervenu, puisqu'on donne à Léonard l'ange qui est à l'extrême gauche du tableau, et peut-être...
Et d'ailleurs on le voit, une fois qu'on le sait.
Oui, surtout que Franck, vous en parliez tout à l'heure en évoquant la personnalité de Verrocchio, je dirais que si Verrocchio est effectivement un homme omniscient, polytechnicien, comme vous l'avez très bien dit, il y a chez lui une véritable passion pour la sculpture, et on voit dans la peinture de Verrocchio la marque d'un travail qui est un travail éminemment sec, éminemment dur parfois, très sculptural. L'ange dont on parle, qui est à gauche du baptême du Christ, a une souplesse, un moelleux qui n'est pas du tout dans le style de Verrocchio. Voilà pourquoi on peut le donner à Léonard.
Alors, il y a des tableaux inachevés dans les... Mais de toute façon, il n'y a quasiment que ça, les tableaux inachevés. Je parlais de l'adoration des mages tout à l'heure. Voilà une œuvre fascinante. On pourrait y passer, j'allais dire, une vie.
C'est une œuvre exceptionnelle parce que Léonard a résisté à toutes les pressions par rapport à cet achèvement qu'on lui demandait et qu'il n'a pas voulu réaliser. Il faut savoir que c'est un tableau qui avait été une commande de religieux. C'était les moines de San Donato a Scopetto qui avaient commandé ce tableau pour leur église. Et Léonard va travailler sur cette adoration des mages, fait des dessins préparatoires, bien évidemment. Et nous avons l'œuvre qui est une œuvre, au fond, on a presque envie de dire...
De format carré.
Presque carré et où tout est en place. Le dessin est totalement en place, les jeux d'ombre et de lumière, ce qui est une grande spécialité de Léonard, sont totalement en place. Ce qui manque en fait, c'est le passage à la couleur. Et avec une indépendance d'esprit absolument étonnante, Léonard, malgré les pressions, malgré les menaces, qui sont des menaces que tout commanditaire peut avoir à l'époque, menaces de procès, Léonard ne terminera jamais le tableau.
Et d'ailleurs, il est un peu obligé de... J'ai dit tout à l'heure qu'il partait de Florence parce qu'il préférait Milan, mais il n'avait peut-être pas le choix non plus.
Il y a aussi les problèmes.
Ces
problèmes qui sont ces problèmes d'ordre matériel qui l'obligent aussi à partir, même si effectivement Milan est la ville qui correspond à ses aspirations.
Ah oui, alors là, la période milanaise, évidemment, c'est l'efflorescence de son talent, avec notamment une œuvre archi connue. Je dis une œuvre, je devrais presque dire deux, puisqu'on en possède deux versions. L'une est à Londres, l'autre à Paris, bien entendu, c'est la Vierge au Rocher.
Alors, je pense que la Vierge au Rocher, alors sans chauvinisme aucun, la Vierge au Rocher exceptionnelle, c'est celle de Paris, puisque l'œuvre de Londres est une version tardive, œuvre d'ailleurs qu'on a longtemps donnée à l'atelier de Léonard. C'est seulement depuis quelques années qu'on considère que la version de Londres est aussi une version autographe.
Ça, c'est passionnant. J'ouvre une petite parenthèse, mais on passe son temps à découvrir de nouvelles œuvres de Léonard, bien entendu. Certains arrivent à lui attribuer de nouvelles œuvres, d'autres ne sont pas d'accord. Je pense à Daniel Arras avec l'affaire de la Madone La Roque, notamment, il y a une vingtaine d'années, même pas une quinzaine d'années.
Et puis, on pourrait parler aussi très récemment de ce merveilleux dessin qui est La Belle Princesse. La Belle Princesse qui est ce dessin apparu et que le propriétaire veut à tout prix voir comme une œuvre de Léonard qui représenterait d'ailleurs un des membres de la famille Sforza. Ce serait le portrait d'une des filles illégitimes de Ludovic le Mort.
Une des œuvres qui... Enfin, il y a plusieurs œuvres qui ont été désattribuées aussi, ça peut arriver, bien entendu.
Mais j'allais dire que c'est un petit peu, à ce niveau-là, un jeu général de l'histoire de l'art. On attribue, on désattribue. Rembrandt a eu des tableaux par centaines désattribués. Raphaël a eu par centaines des tableaux désattribués. Dans l'avenir, c'est Murillo qui va connaître une sorte
mauvaise
de nettoyage.
Mauvaise nouvelle pour nos auditeurs qui ont des Murillo.
Oui, il faut faire attention. Mais très bonne nouvelle pour Murillo. Là, c'est une parenthèse, mais ça sera le moyen de faire ressortir le vrai génie du peintre, d'enlever toutes ces œuvres secondaires qu'on lui donnait à tort. Eh bien, Léonard, évidemment, le problème est plus fort puisqu'on a peu d'œuvres, vous l'avez dit Franck, on a peu de tableaux certains et les problèmes d'attribution et des attributions sont particulièrement pointus.
Ce qu'il y a de fascinant dans la Vierge au Rocher, c'est sa dimension quasi baroque, si j'ose dire, avant l'heure. C'est ce travail du clair-obscur, de la grotte, de la profondeur, de la minéralité, en quelque sorte.
Oui, c'est cette atmosphère totalement étrange, parce que pour un tableau qui représente la Vierge à l'enfant et le petit Saint-Jean-Baptiste en compagnie d'un ange, on pourrait imaginer une atmosphère sereine à la Raphaël, qui serait quelque chose de cohérent. Là, on a l'impression d'être dans une sorte de grotte. On a une peinture, j'oserais dire, réellement métaphysique en tant que telle. Et c'est vrai que ce tableau est un tableau qui permet cette notion tout à fait exceptionnelle. On a l'impression que les personnages jaillissent de l'obscurité et deviennent des vraies révélations. Là, la dimension religieuse est exceptionnelle. Les personnages jaillissent de l'ombre et s'imposent dans la lumière. C'est vraiment l'idée de la révélation mystique.
À Milan, Léonard va faire des expériences étonnantes, notamment en matière d'anatomie. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la dissection est strictement interdite, bien entendu, et que les artistes travaillent comme ils peuvent et sans connaître toujours bien l'anatomie humaine.
Oui, contre les règles.
Contre les règles. Il travaille beaucoup sur les chevaux, car j'ai parlé des oiseaux, mais il a aussi une passion dévorante pour les chevaux. Il passe son temps au marché aux chevaux, il dessine des chevaux, etc. Il connaît ça par cœur, bien entendu. Il y a chez lui aussi la volonté, à cette même époque, de s'abstraire en quelque sorte de la peinture pour faire tout autre chose. J'ai dit qu'il était ingénieur, il s'occupe de machinerie de spectacle. Il va faire ce fameux Cavalier Sforza dont ne sortira dans un premier temps que le cheval, mais qui fait quand même 7 mètres de haut.
Tout à fait, et il envisage même des choses dans un domaine très concret qui sont des machines de guerre. On sait aussi que Ludovic le Mort, Ludovic Sforza, lui demande d'envisager, et on a des dessins absolument terrifiants de machines qui d'ailleurs n'auraient sûrement pas fonctionné, vous en parliez tout à l'heure, mais qui sont des sortes de mises en scène terrifiantes que pourrait être la destruction de l'homme et des chevaux sur le terrain de la guerre.
Et puis alors après ça, et à côté de ça, alors bien sûr la scène, pardon, n'oublions pas la scène de Santa Maria delle Grazie, qui est évidemment le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, fresque.
Et alors qui n'est pas une
c'est
vraie
pas
fresque,
une fresque,
justement.
C'est ça, c'est bien le problème.
Ce serait une vraie fresque, l'œuvre serait mieux conservée. Ça, c'est le côté expérimental dont Franck vous avait parlé. C'est son côté aristotélicien. Essayez toujours de trouver de nouveaux secrets. Et le problème de la scène de Milan, c'est que justement, il a voulu innover techniquement parlant. Il aurait utilisé la buone fresco, pour prendre le terme italien, l'œuvre se serait sans aucun doute mieux conservée. Le problème, si elle s'est détruite pratiquement dès l'époque de Léonard, c'est qu'il utilise des éléments négatifs. Par exemple, il utilise une préparation à base de matières organiques qui très vite vont devenir purulentes. Et évidemment, on ne peut rien faire pour restaurer l'œuvre puisqu'elle est atteinte dans son essence même.
Ah oui, elle est gangrénée, cette pauvre scène.
Elle est gangrénée et la dernière restauration eu lieu fait que l'on n'a plus qu'un fantôme. On a un fantôme. C'est-à-dire qu'on a enlevé tous les repeints qu'on avait rajoutés au fil des siècles. siècle. Et maintenant, c'est vraiment un fantôme qui apparaît en même temps au secours, mais en même temps, la force de Léonard est là, puisque malgré ce côté fantomatique, on a un sentiment absolument exceptionnel devant cette œuvre, d'une scène, sujet traditionnel en peinture, totalement originale, avec ce rythme ternaire, les personnages groupés trois par trois, exceptionnels.
Tout
est les jeux de mains, les jeux de regard. Ça, c'est toujours une force. Déjà, dans La Vierge au Rocher, il y avait des liens entre les personnages dans les mains et les yeux.
Il existe un grand nombre de copies de cette scène. Certaines ne sont d'ailleurs peut-être pas des copies, mais des réinterprétations d'ateliers. Je salue au passage M. Zamaron, qui possède une de ces merveilleuses œuvres et qui essaie depuis de nombreuses années de la faire reconnaître comme une œuvre de Léonard, ce qui n'est pas évident, bien entendu.
Ce serait même difficile.
Ce serait peut-être difficile. Alors, à côté de ces chefs-d'œuvre incroyables, vous avez des portraits. On a la Dame à l'Hermine, la Belle Ferronnière. Un petit peu mièvre à côté du reste, non ?
Moi, je ne le pense pas. Justement, pour la Dame à l'Hermine. La Dame à l'Hermine, qui est une dame absolument de 1000 ans, puisque c'est la maîtresse officielle de Ludovic le Mort, c'est Cecilia Galerani. Elle, nous l'avons identifiée précisément. Et cette dame, très proche du pouvoir, est représentée justement avec aucune mièvrerie. Par exemple, on est toujours étonné par la main extrêmement puissante du premier plan, qui est très franchement une main virile, qui n'a rien de féminin. Le visage est d'une délicatesse totale, mais la main est d'une force absolument surprenante. Ça, cela montre aussi ce que vous évoquiez tout à l'heure, Franck. Le goût de toutes les diversités dans la nature. Ce que Léonard appelait lui-même, pour les caricatures qu'il pouvait faire, les têtes grotesques. Alors là, c'est pas du tout le cas, mais il cherche des éléments qui ne sont pas dans la recherche de la beauté traditionnelle, à la Raphaël encore une fois.
Et l'hermine, symbole de pureté, de douceur, etc., n'en est pas moins un petit animal qui mord et qui suce le sang. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette ambivalence toujours.
Et une petite chose, l'hermine est aussi sans aucun doute un élément parlant, puisque l'hermine se trouvait dans les armoiries personnelles de Ludovic le Mort. Ça rapproche évidemment la jeune femme et son amant, et on aurait même une interprétation supplémentaire. En grec, l'hermine se dit Galée. Le nom de la jeune femme est Galerani. Ce serait une sorte de rébus codé qu'on aimait d'ailleurs beaucoup à l'époque. Et petite parenthèse, c'est ce qui est justement très étonnant dans la Joconde, c'est que nous n'avons aucun de ces rébus pour nous confirmer l'identité du personnage.
Ah non, elle est totalement tout pont coupé avec le réel.
Exactement, elle est en dehors de toute cette codification cachée que l'on aimait à l'époque.
La plus grande œuvre de Léonard peut-être, et celle qui pour lui aura provoqué le plus de douleur, car elle est née, ça a été un accouchement vraiment très difficile, d'ailleurs malheureusement incomplet et avorté, disons-le, c'est la bataille d'Anghiari. Ça marque son grand retour à Florence, ça marque un véritable bras de fer avec son rival Michel-Ange. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire.
Je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crut gironde. Quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde.
La voix de Barbara sur Europe 1 avec un extrait de La Joconde, puisque vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Léonard de Vinci, avec votre invité, Serge Lega, conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts.
Évidemment, nous allons y venir à La Joconde. Tout le monde nous attend au tournant, bien entendu. Mais avant ça, la bataille d'Anghiari, au moins aussi passionnante, sinon davantage, on met Léonard et Michel-Ange face à face dans la grande salle des fêtes, l'immense salle du Palazzo Vecchio de Florence, et on leur demande de faire chacun ce qu'il peut faire de mieux, c'est ça?
Oui, deux batailles qui s'affrontent, la bataille d'Anghiari pour Léonard, la bataille de Cassina pour Michel-Ange, évidemment deux grandes victoires des Florentins sur leurs ennemis traditionnels.
C'est logique.
Et Léonard va encore une fois vouloir expérimenter. Il réalise une œuvre colossale puisqu'elle fait à peu près 7 mètres sur 17 mètres.
Avec c'est encore vraiment... une nouvelle technique, c'est
et
ça
Et encore une nouvelle technique. Ce qu'il veut cette fois-ci, c'est retrouver la technique de la peinture que connaissaient les Grecs et les Romains de l'Antiquité. Faire une peinture à la manière antique. Le gros problème, c'est que tout est contre lui. D'abord, il fait un froid polaire à Florence à cette période. L'œuvre est une œuvre qui est déjà faite avec une technique expérimentale. En plus, elle ne sèche pas. Et Léonard a cette idée qui pourrait paraître logique, qui va être une catastrophe. C'est devant ce problème du froid à l'extérieur, du chauffage qui manque à l'intérieur, du tableau qui ne sèche pas, on installe des braseros à la base de la peinture murale. Et évidemment, ce qui devait se passer se passe, c'est qu'il va y avoir des coulures, tout ceci fond. En plus, on utilise des techniques qui ne résistent pas à la chaleur, ce qui fait que l'œuvre est une œuvre qui est mort-née.
Elle se consume sous les yeux même de son créateur.
C'est exactement ça, c'est presque romantique comme thématique.
Sous les yeux de son créateur et sous les ricanements de l'échafaudage d'en face, évidemment.
Oui, la rivalité Léonard-Michel-Ange est très forte. Michel-Ange était d'une jalousie absolue par rapport à Léonard. Là aussi, que vous en avez parlé dans votre introduction, c'est évidemment aussi une chose, c'est la beauté de Léonard, Michel-Ange, qui avait un culte de la beauté, qui lui-même se sentait laid, va totalement envier cette beauté assez fracassante qui était celle de Léonard, et puis ce personnage qui est un personnage qui a une sorte d'indépendance d'esprit à tout niveau. Michel-Ange rêverait d'être cela, et il est tout le contraire.
Alors nous, nous l'appelons Léonard, mais c'est un petit détail, il faut le signaler, en florentin, ça s'écrit Leonardo, avec un I en fait, hein, au début.
Tout à fait.
Ce Leonardo va finir donc par quitter Florence un peu sous les huées, il faut bien le dire. Cette bataille d'Anghiari, on l'a redécouverte il y a peu. On l'a découverte sous le grand décor de Vasari qui est venu couvrir le mur.
Oui, puisque le décor, évidemment, n'a pas été conservé. Enfin, on a longtemps pensé que tout avait été détruit, bien évidemment. Et puis, cette salle, qui est la grande salle de réception du Palazzo Vecchio, devait avoir un décor. Et c'est donc Vasari, l'auteur, mais qui est également peintre, un peintre tout à fait maniériste en tant que tel, qui a décoré l'ensemble de cette salle et qui a fait ces grandes peintures, soyons francs, un peu ennuyeuse que l'on peut voir dans cette salle.
Mais il a pris le soin, lorsqu'il les a faites, de recouvrir simplement la peinture de Léonard et de laisser un espace entre les deux.
Espace,
ce qui
absolument.
Fait qu'on a découvert là, et c'était en 2007, si je ne m'abuse, ou 2008, on a découvert des pans entiers de la bataille d'Anghiari.
Ça fait des traces.
Ouais, c'est assez fascinant.
Ça fait partie aussi du mythe Léonard.
Nous voici face aux grandes œuvres. Saint Jean-Baptiste, la Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, dont je parlais tout à l'heure à propos de cette espèce de vautour qui s'est glissé dans la composition et qui prend en fait, qui revêt la forme du manteau de Sainte Anne. Et puis, la Joconde. Alors, qui est-elle cette Joconde ?
Alors on a tout dit d'elle, c'est ce qui est merveilleux, c'est que la Joconde, c'est les extrapolations les plus fabuleuses qui soient. En fait, on pense tout simplement que l'on peut revenir à l'idée de base. Sans aucun doute, la Joconde était une certaine Lisa Gherardini, une jeune femme qui va se marier très jeune, elle a 16 ans, elle épouse un homme beaucoup plus âgé qu'elle, puisqu'il a déjà été marié deux fois, il est veuf déjà deux fois, qui est Francesco del Giocondo. Et voilà d'ailleurs pourquoi les anglo-saxons disent toujours Mona Lisa, Lisa étant le prénom de la Joconde. La Joconde, c'est le nom de Francesco del Giocondo. Et ce serait donc tout simplement le portrait commandé par le mari de sa jeune épouse, Lisa, devenue Lisa del Giocondo.
Alors cette jeune femme a l'air parfaitement sérieuse, sage, tout ça est très statique. Et en fait, on se rend compte que la composition du tableau est une sorte de spirale, au contraire, très élaborée, très raffinée.
C'est une magie totale, ce tableau. Alors c'est vrai qu'on est toujours, la première fois où on le découvre...
On dit tableau parce que ce n'est pas une toile, hein, c'est sur des planches de bois.
C'est sur bois, c'est une peinture à l'huile.
Toutes les œuvres de Léonard.
Oui, Léonard est très fidèle au panneau de bois. Il utilise le peuplier comme support traditionnel, comme d'ailleurs la plupart des peintres italiens. Et il réalise cette Joconde qui donne l'impression effectivement d'être très marmoréenne, très calme, très sereine. Et ce qui est magique dans la Joconde, c'est que tous ceux qui la regardent ont un sentiment différent. On l'a vu triste, on l'a vu joyeuse.
Chacun voit ce qu'il veut voir.
Ah mais c'est prodigieux. Certains ont vu en elle une mère comblée parce qu'elle est enceinte et qu'elle porte un enfant. Au contraire, d'autres ont vu une mère qui est en deuil parce qu'elle vient de perdre un enfant. enfants. Tout ça est totalement faux quand on connaît la vie. Et le tableau est de 1503. Donc à ce moment-là, de toute façon, les trois enfants qu'a eu Lisa Gherardini, devenue l'épouse d'El Giocondo, ont déjà, pour deux d'entre eux, sont vivants. La petite fille est déjà morte, mais depuis déjà quelques temps.
Mais ça, c'est l'histoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire mythique de la Joconde? Est-ce qu'elle ne représente pas quelqu'un d'autre? On a dit tout simplement qu'elle était la version projetée de la vision que Léonard avait de lui-même, que c'était en quelque sorte son intériorité jetée sur le toit, sur le tableau.
C'est une des grandes idées qui a été lancée à une période, c'était l'idée de dire qu'au fond, cette Joconde, qui est un personnage féminin assez jeune,
un paysage intérieur.
Voilà,
fait.
Il serait en même temps une sorte de transposition de l'idée de l'être générique. Léonard, homme d'un certain âge, se peint sous les traits d'une femme jeune. C'est-à-dire qu'on casserait les stéréotypes qui séparent les sexes et l'âge. On n'a plus de jeunesse, on n'a plus de vieillesse, on n'a plus de sexe masculin. On a l'être. On aurait l'être dans son origine et dans son unicité.
Et c'est parce qu'on a l'être qu'on est à ce point fasciné que les foules accourent du monde entier pour l'avoir. Alors, c'est vrai que dans les foules, il y a sans doute 80% de gens qui viennent juste faire un selfie devant la Joconde, mais il y en a aussi 20% qui viennent parce qu'ils sont fascinés par cette œuvre immense.
Et puis,
c'est
un tableau magique parce que on le détourne. Le premier, c'est Marcel Duchamp qui a mis les moustaches, qui l'a mis. On lui a tout fait à la Joconde. Et je trouve que la plus belle explication de la Joconde, c'est André Malraux qui l'a donnée. Lorsque la Joconde est partie aux États-Unis, à l'époque où Malraux était ministre de la Culture, bien sûr, la Joconde a été exposée à New York, à Washington, et Malraux raconte dans ses mémoires que chaque jour, il avait un déjeuner, un dîner, où une de ses voisines de table lui posait la question « Mais monsieur le ministre, pourquoi la Joconde est le plus beau, le plus extraordinaire tableau du monde ?» Et Malraux a inventé une histoire nouvelle à chaque repas. Et évidemment, un jour, ou peut-être un peu fatigué, il a fait la plus belle réponse. Et il a répondu à sa voisine « Madame, la Joconde est le plus extraordinaire tableau qui soit, parce que tous ceux qui lui ont collé des moustaches sont morts.
Oh »
Et
Dieu.
Ça, c'est la force d'un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on peut en faire tout ce que l'on veut, c'est l'œuvre qui s'impose. Et ça me permet de rappeler une chose, c'est que Marcel Duchamp, qui le premier lui a mis des moustaches, des années plus tard a dit « C'est elle qui a gagné, aujourd'hui je deviens jocondolâtre. »
Ah, c'est magnifique.
C'est la preuve que Malraux avait raison.
Est-ce que finalement cette actualité totale d'une œuvre comme celle-là n'est pas liée à sa capacité à saisir le présent? La Joconde, c'est une sorte de présent éternel. On n'est ni dans la peinture d'histoire, ni dans je ne sais quelle recherche esthétique, on est dans l'être, on parlait d'être, de présent, on est dans la forme vitale pure, tout simplement, avec au fond bien sûr ce grand paysage, ce qu'on appelle le sfumato. Il faut que vous expliquiez comment il faisait.
Alors,
ça.
Le travail est justement une originalité totale qui n'est pas présente dans les tableaux de jeunesse, c'est vraiment une mise au point par Léonard. J'oserais dire que c'est sa version personnelle du clair-obscur. Le sfumato, c'est un travail sans ligne au contour, assez fondu, à la manière de la fumée. Voilà pourquoi sfumato. Et l'idée est donc de faire jaillir de l'obscurité les éléments que l'on veut mettre en valeur par la lumière. Mais c'est donc un travail qui part du sombre vers le clair et qui donne une espèce d'impression qui s'impose progressivement aux spectateurs.
Ce qui part aussi du sombre vers le clair, du cœur vers la périphérie de l'œuvre, c'est ce sourire extraordinaire, totalement mystérieux et qu'on retrouve de manière assez étrange sur le Saint Jean-Baptiste par exemple, et aussi du reste sur la Sainte Anne à l'enfant. Il y a là comme une sorte de récurrence chez Léonard. Vous savez, il y a quelques années, à votre place, Serge Lega était installé Sophie Erfort, qui était venu nous expliquer que le véritable modèle de la Joconde, c'était Salaï, en fait, c'est-à-dire un des amours de Léonard, un garçon en l'occurrence.
Elle avait écrit Le Joconde,
Le Joconde, oui,
c'est
voilà,
cela. Et je pense que l'idée de ces sourires énigmatiques, ces sourires particuliers, alors déjà ces sourires, on les trouve un peu dans l'œuvre de Verrocchio. Il y avait des souvenirs, des sourires chez Verrocchio, mais c'est vrai que Léonard donne une ambiguïté tout à fait évidente au personnage qu'il représente. Le Saint Jean-Baptiste est un Saint Jean-Baptiste totalement particulier. C'est tout sauf l'image traditionnelle du personnage qui est le premier des prophètes. C'est au contraire une représentation qui est une représentation très tendancieuse, très particulière. Le décadentisme dont nous avions parlé, Franck, quand nous avions évoqué Gustave Moreau, était évidemment fasciné par cette image de Saint Jean-Baptiste ambigu, particulier, et ce sourire étrange, ce regard étrange a pu permettre toutes les suppositions, dont effectivement
et le geste, cet index qui d'un seul coup pointe vers je ne sais quelle divinité éternelle.
La présence qui est au-delà des autres. Et là aussi, quelle est la vraie position de Léonard sur un plan mystique? Ça aussi, c'est très intéressant.
Alors, je vous avoue que si moi, je me suis intéressé à Léonard de Vinci quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est à cause du texte de Freud, ce souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Ça, c'est quand même très fort. C'est-à-dire que, avec le savoir-faire de vieux roublard, qui était celui de Sigmund Freud, il commence par nous sortir un texte qui est issu d'un des codex. C'est-à-dire que là, c'est vraiment Léonard qui raconte qu'étant enfant, il a un oiseau noir est venu se poser sur son berceau. C'est la chanson de Barbara, d'une certaine manière.
On revient à Barbara.
On revient à Barbara. On n'est jamais très loin de Barbara quand on parle de Léonard. Et puis, d'un seul coup, sur un tableau qu'il voit au Louvre, Freud découvre que l'oiseau est là et qu'effectivement, avec sa queue, il vient effleurer les lèvres de l'enfant. Il faut reconnaître que c'est fascinant quand même.
Ah mais Freud, avec beaucoup d'intelligence, est parti, alors là aussi, de tout ce que permet Léonard. Parce que moi, je dois dire que par moments, j'ai quelques réserves sur le merveilleux texte de Freud, qui est un texte admirable,
oui,
exceptionnel, mais que bien évidemment, vous me connaissez.
Ça va contre votre rationalité.
Mais je pense que Freud a en même temps eu cette perception que l'œuvre de Léonard peut permettre justement toutes les ouvertures possibles. Et effectivement, expliquer entre autres l'homosexualité de Léonard à travers ce rêve d'enfance et cette présence tout à fait particulière de ce Milan, de ce vautour qui se serait trouvé sur son berceau, est une des explications parfaites pour une démarche psychanalytique.
Évidemment, nous avons parlé du peintre, mais il aurait fallu parler de l'homme de scène, de l'ingénieur militaire, de l'inventeur hydraulicien, du génie sous tous ses aspects. Ça fera autant d'émissions à consacrer encore à Léonard. Je crois, on a compté tout à l'heure, que celle-ci devait être la 6e depuis 12 ans. À mon avis, on peut encore en faire une bonne demi-douzaine.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est Mopalia et Franck qui nous ont envoyé leurs questions sur la page Facebook de l'émission et vous demandent, Franck, d'expliquer.
Alors déjà, la première question.
Pour celle... Mopalia, donc elle vous demande pourquoi on parle de noms d'oiseaux pour désigner les injures.
Alors ben ça, c'est, l'expression est attestée, me dit-on, depuis 1872. C'est tout simplement par allusion aux noms bizarres qu'on trouve dans les bestiaires et dans les livres d'histoire naturelle des 18 et 19e siècles. Tous ces noms étonnants, ben, c'est une façon élégante d'évoquer les injures, hein, tout simplement.
Voilà. Et Franck...
Il y a plein d'expressions avec les oiseaux. Hein, faire l'autruche à tête de linotte, être une poule mouillée, jacassée comme une pie, enfin, etc. Bon.
Et Franck, lui, aimerait savoir d'où vient l'expression bouc émissaire.
Alors, un bouc émissaire, ça, c'est une expression biblique. Vous savez que dans la Bible, au chapitre 16 du livre du Lévitique, le grand prêtre tire au sort un bouc et au cours d'une cérémonie, il appose ses mains sur la tête de l'animal pour le charger des péchés des enfants d'Israël. Et ensuite, la bête est envoyée dans le désert et là, elle va tomber dans les griffes de l'ange déchu aussi peut-être, le démon Azazel. Et l'émissaire maudit à ce moment-là disparaît avec tous les péchés du peuple d'Israël. L'image est claire, le bouc émissaire c'est celui qui va prendre sur lui toutes les fautes et tous les péchés. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu à la question de Franck. Je vous signale à propos de Léonard que vendredi 3 avril à 20h40, France 5 diffusera un numéro spécial de l'émission On n'est pas que des cobayes consacré à Léonard de Vinci. Et justement là, ce sera plutôt le Léonard ingénieur, cher Serge.
Yeah.